Florian Delorme et de ses invités pour Contre-Expertise. Bonsoir Florian.
Bonsoir, merci Yann Kalik. Bonsoir à tous et bienvenue dans Contre-Expertise. Faut-il le rappeler, le pétrole fait l'objet du plus important commerce mondial en valeur mais aussi en volume. Chacune des fluctuations de son prix a un impact direct sur le budget des ménages et donc in fine sur leur mode de consommation. Le 2 janvier 2008, le baril de pétrole passait la barre symbolique des 100 dollars. Deux mois plus tard, le triste record d'avril 1980 de 103,76 était battu. Mais nous n'avions encore rien vu puisque le 2 juillet dernier, le baril atteignait son maximum historique à presque 145 dollars. En à peine 5 ans, le cours du pétrole a été multiplié par 5. La montée du prix du baril est-elle le signe que la production mondiale de pétrole va commencer à décroître ? Si tel est le cas, le consommateur peut légitimement s'inquiéter puisque la demande, elle, toujours croissante, deviendra de plus en plus incompatible avec l'offre. Peut-on parler de troisième choc pétrolier ? D'autres sont-ils à craindre ? Quelle est la part de la spéculation dans cette crise ? Comment le monde va-t-il pouvoir réaliser l'incontournable révolution énergétique ? Peur bleue au pays de l'or noir, c'est le sujet de Contre-Expertise. Pour en débattre avec nous ce soir, Jean-François Gruson, chef du département économie de l'Institut français du pétrole. Olivier Raymondon, docteur en sciences économiques et économiste pour COE Rexecode. Jean-Luc Vinger, ingénieur conseil spécialisé dans les questions d'énergie et de développement. Il est l'auteur de « La vie après le pétrole ». De la pénurie aux énergies nouvelles, aux éditions autrement parues en 2005. Et enfin, par téléphone, Jean-Marie Chevalier, directeur du Centre géopolitique de l'énergie et des matières premières à Dauphine, auteur, lui, des grandes batailles de l'énergie parues chez Gallimard dans la collection Folio en 2004. Bonsoir à tous, messieurs. Alors Jean-Luc Vinger, vous êtes l'auteur, je le disais, de « La vie après le pétrole ». Sur la quatrième de couverture de votre ouvrage, on peut lire « Si le pétrole a déjà connu plusieurs crises, il semble que celle qui nous attend soit d'une ampleur inédite et arrive bien plus tôt que nous ne l'imaginons généralement ». Cet ouvrage est paru en 2007. Alors est-ce que la grande crise dont je parlais, celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en 2008, eh bien est-ce que c'est celle-là dont vous parlez ?
Alors malheureusement non, si j'ose dire, puisque aujourd'hui on n'a pas de pénurie de pétrole. Si on veut du pétrole, on en a, on le trouve un petit peu cher, mais c'est tout. Et on va vivre ce qu'ils appellent le pic de production de pétrole en quelques années. Et là, quand on commencera à avoir une pénurie, ce sera réellement un problème sérieux. Pour l'instant, ce n'est seulement les prémices, si j'ose dire.
Très bien, Jean-François Gruson, vous travaillez donc à l'IFP, je le disais. Quel est exactement le rôle de l'IFP ? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler en quelques mots ?
L'IFP, c'est un institut de recherche appliqué, dès sa création à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 1800 personnes, essentiellement des chercheurs, y travaillent. Initialement, notre objectif, c'était de fournir à la France, entre guillemets, des solutions technologiques pour exploiter le pétrole. C'était ça l'idée au départ. Aujourd'hui, on a 5 missions stratégiques. La première, c'est de développer des solutions pour la capture, le stockage et la séquestration du CO2, issu de la combustion des énergies fossiles. Le second, c'est de développer des carburants alternatifs, notamment les biocarburants. Troisième, c'est de mettre au point des technologies pour faire des véhicules propres et économes, par exemple des solutions hybrides. Quatrième, c'est d'avoir un raffinage, donc un outil industriel relativement propre, peu consommateur d'énergie. Et enfin, malgré tout, prolonger la vie des réserves de pétrole pour qu'on ait un petit peu de pétrole encore pendant quelques années pour faire une bonne transition avant autre chose. Voilà.
Merci. Je vais me tourner maintenant vers Jean-Marie Chevalier qui est au téléphone depuis la Creuse. Jean-Marie Chevalier, en 2004, vous aviez écrit un essai sur les grandes batailles de l'énergie. Alors ces grandes batailles de l'énergie, est-ce qu'elles ont changé depuis 2004 ?
Je dirais que Gallimard avait sous-titré « Petit traité d'une économie violente », qui était assez amusant. Et effectivement, je dirais que ce qui a changé, c'est que les violences s'exacerbent. Les violences s'exacerbent du côté des pays producteurs avec les tensions géopolitiques, du côté du climat qui maintenant est un sujet inquiétant et incontournable, du côté financier et puis du côté des pays émergents et cette espèce de frénésie du développement qui implique davantage voilà ce que ça entraîne pour le changement climatique.
Merci. Olivier Raymondon, vous êtes docteur en sciences économie. Quelles sont finalement les différences fondamentales entre les chocs pétroliers de 1973, de 1979 et celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si tant est qu'on peut plus parler évidemment de chocs pétroliers? Olivier Raymondon.
Alors, je pense qu'il y aurait deux grandes différences. Bon, la première, c'est que c'est un choc qui, initialement en 74, 79, 81, a été mené par les pays de l'OPEP, qui était donc volontaire. On a une véritable contraction de l'offre de pétrole, alors qu'il n'y avait pas réellement de problème de disponibilité, en tout cas à court terme. Ça, c'est le premier point. Et puis, le second point, c'est que la hausse a été extrêmement rapide. Par conséquent, en 1974-81, la hausse du prix a été extrêmement rapide. Elle a eu lieu en quelques semaines seulement. Alors que le choc que l'on a actuellement, il a débuté vers 2001, 2002, 2003, et s'est prolongé jusqu'en 2008. Et de ce point de vue, il est extrêmement progressif. Il s'agit véritablement de ce qu'on peut appeler un choc d'équilibre, où réellement, il y a un problème d'ajustement entre l'offre et la demande.
Vous êtes d'accord, un choc d'équilibre ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment la montée de la demande dans une situation où l'offre atteint une sorte de plafond faute d'investissement, parce que pendant des années, on a vécu avec un pétrole bon marché, ce qui n'était pas une incitation pour les opérateurs ou pour les pays producteurs à développer de nouvelles capacités de production. Donc aujourd'hui, on a une demande qui croît fortement, poussée par les pays émergents, ça c'est vrai, et une offre qui suit avec les investissements disponibles aujourd'hui. Ce n'est pas encore un problème de réserve ou un problème de picole comme on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment un problème de capacité de production supplémentaire à mettre en place sur le système.
Mais ce qui diffère aussi dans le choc actuel, le troisième choc, c'est que le deuxième choc avait cassé l'économie mondiale. Et donc les pays de l'OPEP étaient un peu tétanisés à l'idée que ça puisse se reproduire. Donc là, ils avaient fixé pendant entre 1999 et 2003 la fameuse fourchette OPEP 22-28 dollars, en disant au-dessus de 28 dollars, ça pourrait quand même des dégâts. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que après, à partir de 2004, le contrôle des prix leur échappe, la demande mondiale croît d'une façon étonnante, plus forte croissance depuis 30 ans, les prix s'envolent, dérapent, montent, et il ne se passe pas grand-chose dans l'économie mondiale. Et c'est ça qui différencie ce troisième choc des précédents. Alors, est-ce que ça va continuer? C'est pas évident. Ce qu'on voit quand même, qui est un signe extrêmement intéressant, c'est que pour la première fois aux États-Unis et en Europe, on voit une diminution de la consommation de carburant. C'est-à-dire qu'on atteint un niveau où l'élasticité prix joue et où les consommateurs commencent à prendre des mesures pour consommer moins. Donc, on pourrait avoir un choc qui n'est pas un choc par insuffisance d'offres, mais qu'on appelle un peak demand, c'est-à-dire la demande commence à diminuer, et donc c'est un problème qui vient pas de réserve, mais qui vient de la demande.
C'est un phénomène qui est récent, ça, cette diminution de la consommation?
Comment?
C'est un phénomène récent, cette diminution de la consommation?
C'est un phénomène très récent, c'est 2008. 2008. Alors, est-ce que ça va se prolonger? L'été est très intéressant comme test, parce que c'est la driving season aux États-Unis. On va voir si les Américains continuent à consommer moins, et puis comment les Européens vont passer leurs vacances, et est-ce qu'eux aussi vont consommer moins?
En France, c'est quoi? C'est 15% de consommation en moins cet été, je crois, par rapport à l'année dernière, c'est ça?
Une dizaine, oui. Entre 10 et 15.
Pour le mois de juin.
Pour le mois de juin. D'accord. À quoi est-ce qu'on peut imputer donc l'augmentation des cours du pétrole sur ces derniers mois? Est-ce qu'il y a une raison principale, des raisons? On en a parlé un petit peu, mais comment vous analyseriez les uns et les autres cette augmentation?
Pour moi, il y a d'abord les fondamentaux économiques qui sont tous orientés vers la hausse. C'est-à-dire que on a des coûts de production qui augmentent énormément, et puis on a des phénomènes géopolitiques qu'on appelle le nationalisme pétrolier, c'est-à-dire des pays qui ne veulent pas ouvrir largement aux investisseurs internationaux. Et on a ce paradoxe de grandes compagnies qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne savent pas où aller pour développer les ressources. Et je dirais les pays qui ont des richesses, qui ont tendance à faire ce que j'appelle la tentation de la rareté, c'est-à-dire ne pas pousser la production au maximum. Il y a même un calcul économique pur qui dit que c'est plus intéressant économiquement de garder le pétrole dans le sol plutôt que de le produire. Donc tout ça se conjugue avec en plus des tensions géopolitiques pour amener les fondamentaux à la hausse. Là-dessus, je joue un peu les marchés financiers, et je dirais que je dis pas que les marchés financiers sont responsables de la hausse, je dis qu'ils peuvent éventuellement l'accélérer. C'est quand même très amusant de voir qu'en juin, des grands fonds d'investissement ont dit que le pétrole sera à 150 dollars en juillet. Le pétrole est monté à 146, et tout d'un coup, ça baisse, et on peut se demander si ce ne sont pas des spéculateurs qui avaient parié sur le 150 et qui liquident juste avant.
Olivier Raymondon, vous voulez réagir?
Oui, alors il y a effectivement des éléments financiers qui peuvent être mis en évidence. Beaucoup de spécialistes considèrent comme moi que effectivement la spéculation et les marchés financiers sont pas à l'origine de la hausse des cours. Il s'agit bien entendu, comme on l'a dit initialement, d'une demande qui n'a pas été anticipée à temps par les offreurs, pas uniquement l'OPEP, hein, également d'autres pays comme la Russie et d'autres. Mais par la suite, je pense qu'il y a eu des facteurs aggravants à cette crise. Et notamment le fait que désormais on a sondé toutes les couches de la planète où on pouvait onshore trouver du pétrole et qu'il faut maintenant réellement aller plus loin, requérir à des nouvelles technologies beaucoup plus sophistiquées pour trouver du pétrole à 2000 mètres sous les mers. C'est de nouvelles technologies qu'on ne maîtrise pas totalement pour ce qui est des majors pétrolières. Et régulièrement, on a des retards de production qui sont dommageables pour la planification de la hausse de la production. Donc là, au niveau de l'offre, il y a réellement des difficultés à rétablir un équilibre sur le marché pétrolier entre l'offre et la demande.
Quelle est la position de l'OPEP dans tout ça? C'est dans son intérêt de voir le prix du baril flamber comme ça?
Alors, il y a les déclarations que donne l'OPEP, il me semble, et puis il y a la réalité. Alors, ces déclarations consistent à dire qu'ils veulent finalement stabiliser le marché, qu'ils n'auraient aucun intérêt effectivement à avoir un prix augmenté durablement. Je pense que l'OPEP s'accommode très bien de prix qui continuent à progresser fortement en 2008. Et ils jouent un jeu du chat et la souris avec les pays occidentaux en essayant d'augmenter leur production sans modifier la capacité de leur production. C'est-à-dire que depuis 3 ans, on s'aperçoit que l'OPEP ne parvient pas à accroître ses investissements significativement pour accroître ses capacités de production. Et tant que les capacités de production restent limitées, le marché restera tendu et les prix pourront continuer à augmenter.
Jean-Luc Vingère.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement un souci un peu d'ordre technique où il y a des difficultés à augmenter les capacités de production, ce qui était plus ou moins prévisible puisque c'est l'approche du fameux pic de production, et que traditionnellement, l'industrie pétrolière a dû relever beaucoup de défis qu'elle a généralement réussi à surmonter, à les produire toujours plus loin, toujours plus profond. Et donc, il y avait une espèce de petite musique un peu classique qui était, bon, il faut augmenter les capacités de production. Côté technique, on disait, c'est pas possible. Puis finalement, ils réussissaient vraiment. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que, ils disent que c'est pas possible. Comme d'habitude, au niveau technique, on peut pas augmenter les capacités parce que là, on a un petit problème d'accessibilité des réserves et de problèmes techniques. Et donc, il a fallu un certain temps avant que, disons, les communautés pétrolières, comme vous l'aurez remarqué, sont beaucoup constituées d'économistes. Avant que les problèmes qui ne sont pas purement économiques, mais qui sont plutôt technico-économiques, si on veut dire, commencent à être compris. Et donc, typiquement, l'Agence internationale de l'énergie était très optimiste sur ses prévisions de production. Alors, ils font un exercice de prospective à 30 ans. Et là, ils commencent petit à petit à baisser leurs estimations. Total, par exemple, la compagnie Total, disait l'année dernière, les estimations de l'Agence internationale de l'énergie ne sont pas réalistes. Alors, bien évidemment, il y a aussi d'autres géologues pétroliers qui sont plus indépendants, qui disent la même chose, ça fait un certain temps déjà. Et donc, il y a un petit souci sur d'informations pas très cohérentes sur l'état des réserves, l'état des possibilités de production. Et là, le marché, si j'ose dire, est en train de commencer à comprendre que effectivement, on va avoir un problème, peut-être plus tôt que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et donc ça crée tout un tas de désordres économiques qui peuvent effectivement conduire à ce qui a été appelé par Jean-Marie Chevalier tout à l'heure un peak demand. Mais bon, effectivement, si l'économie s'effondre parce que les prix du pétrole sont trop hauts, je caricature un petit peu, après c'est un peu le problème de l'œuf et la poule, est-ce qu'on a un pic dû à un problème de production ou un problème de consommation? C'est un petit peu la même chose appelée différemment. Donc là je crois qu'il y a une prise de conscience. En 2004, il y a eu un événement qui a été l'affaire des réserves de Shell, qui, à mon avis, signe un peu le départ de cette prise de
Vous pouvez nous rappeler les faits?
Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la compagnie pétrolière Shell a dû dévaluer de 20% ses réserves, hein, et ça a créé un scandale. Ils ont dû limoger l'équipe de direction. Il y a eu des déclarations pas très propres qui ont fusé. Et on a eu des révélations comme quoi ils avaient un petit peu menti sur les réserves un peu auparavant. Donc, ça a fait des ordres. Et tout d'un coup, la communauté... on va dire financière autour des affaires de pétrole, c'est dit, oulala, ça vaudrait le coup de ressortir
le dossier réserve de pétrole, pic de production, et depuis ce moment-là, là, il y a quand même un peu de fébrilité qui arrive.
Avant qu'on aille plus loin, ça fait plusieurs fois que vous utilisez ce mot pic de production. Oui. Pic de production, peut-être pour les auditeurs faire un petit peu le jour là-dessus. Pic de production, déplétion, fin du pétrole.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, on va faire simple, c'est pas du tout le problème de la fin du pétrole. La fin du pétrole, la dernière goutte, c'est pour, on va dire, dans un siècle et demi, pour simplifier le problème. Le problème, c'est la moitié des réserves.
C'est plus net que ça, on sait que c'est pour dans un siècle et demi.
Non, c'est vraiment un ordre de grandeur à la louche, mais c'est histoire d'évacuer le problème.
D'accord.
Pour bien dire que, non, c'est pas le problème de la fin du pétrole. C'est le problème de, alors, le pic de production, c'est le moment où, dans le remplacement perpétuel des gisements qui se produit, parce qu'il faut savoir que les gisements, se tarissent régulièrement, et il faut toujours, il y a une course-poursuite qui consiste à remplacer les gisements anciens par des nouveaux. Tant que vous avez beaucoup de gisements disponibles, vous arrivez à augmenter la production, et quand vous avez plus que des petits gisements difficiles d'accès, donc plus longs à accéder, vous avez la production qui commence à descendre tranquillement. Et donc c'est plus un problème de débit de robinet que de taille de réservoir.
D'accord.
Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Quand on parle de limite de capacité de production, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le robinet mondial, c'est-à-dire le débit, on n'arrive plus à l'augmenter plus. Il est un peu au maximum.
Et Jean-François Brisson, ce pic de production, il est pour quand?
Ah, ça c'est une bonne question, ça, à laquelle je ne répondrai pas. juste pour donner une précision sur cette notion de pic de production, on a des pics de production dès aujourd'hui sur certains gisements, sur certaines régions. En mer du Nord, par exemple, on peut dire qu'on a atteint le pic de production. Simplement, on pensait qu'il serait en 1984, et puis il a été en 2000, puis en 2003. Donc c'est quelque chose qui est relativement difficile à programmer de manière précise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous, à l'IFP, quand on regarde ces problèmes-là, sachant que pour avoir accès à une connaissance fine des réserves mondiales, c'est quelque chose qui est extrêmement secrète. C'est un enjeu industriel fort, soit pour les pays producteurs, soit pour les compagnies. Finalement, la valeur d'actif de Total, hein, c'est ce qu'il a, c'est les réserves qu'il possède. C'est ça qui fait sa valeur. Hein. Il n'a plus de réserves, il a quasiment plus de valeur sur le marché financier. Donc c'est vraiment un sujet très important, très financier. Alors donc nous, on croit plutôt à quelque chose qui serait un peu plus progressif que ce qu'on appelle un pic, c'est-à-dire plutôt quelque chose de l'ordre d'un plateau de production. On a encore quelques réserves à découvrir, on a encore des pétroles techniques difficiles à mettre en œuvre qui vont avoir un certain nombre de conséquences environnementales, hein, faut pas se cacher, mais on pourra monter la production si on y met les investissements. Mais on dépassera pas probablement, nous on estime que si on arrivait à faire un plateau autour de 95 millions de barils jour alors que la consommation d'aujourd'hui c'est à peu près 86, hein, on aura vraiment valorisé le maximum de ce qui est possible de valoriser. Et on pense...
Il commencerait quand ce plateau?
C'est difficile à dire. On pense, nous, qu'il se situera quelque part entre 2015 et 2025. Mais ça va dépendre énormément de la demande. Si votre demande, tout d'un coup, se stabilise à 85, ne monte plus, voire régresse, c'est autant de temps de gagner sur l'apparition d'un plateau de production.
Oui, ça concorde complètement avec ce que Total disait. Total dit, c'est 2020 le pic de
production. De ce point de vue-là, ils ont totalement changé de position depuis 2-3 ans, puisqu'il y a 3-4 ans, la direction antérieure de Total était beaucoup plus optimiste, y compris sur les prix d'ailleurs, en général, elle ne prévoyait pas de monter des prix très élevés, et elle avait une vision plus optimiste des réserves. Donc la nouvelle direction avec Christophe de Margerie est beaucoup plus réaliste, est beaucoup plus proche des positions que défendent pas mal de géologues ou d'économistes du secteur.
Jean-Marie Chevalier, ce pic de production 2020, ça vous paraît une bonne échéance, une bonne date?
Oui, je souscris un peu à ce qui a été dit. Il y a deux choses, il y a la date, il y a la forme du pic et la descente. Je suis assez d'accord avec l'idée d'un plateau, et surtout l'idée que ce pic, il dépend de plusieurs facteurs. Ça a été dit, il dépend de l'offre, mais de l'offre à quel prix? Il est clair que si le prix du pétrole est à 200 $, il y a davantage d'offres disponibles, mais puisqu'on peut aller chercher du pétrole dans des zones plus compliquées ou bien récupérer davantage de pétrole. Mais s'il y a un prix très élevé, ça décourage la demande. Donc il y a une espèce d'équilibre compliqué entre les facteurs de demande, les facteurs de prix, les facteurs technologiques qui peuvent repousser dans le temps l'échéance du pic parce qu'on améliore la productivité des gisements. Donc il y a beaucoup de facteurs qui se combinent pour finalement aboutir à un pic qui, certes, aura lieu, mais on ne sait pas dans quelle mesure tous ces différents facteurs vont se combiner pour définir la forme du pic. Et puis, il y a quand même un événement, c'est qu'à l'heure actuelle, on est quand même très très inquiet par la montée des émissions de gaz à effet de serre et les dégâts que ça entraîne sur la planète. et que si on veut, comme le veut la communauté scientifique, stabiliser les émissions de façon à contenir le réchauffement climatique à plus de 2 degrés C, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on réduise nos consommations de pétrole, de charbon, et qu'on cherche à être plus efficace dans nos consommations.
Jean-Luc Vincent.
Oui, je voulais juste dire, oui, je suis d'accord, hein, le terme pic de production, c'est pour essayer de décrire le phénomène, mais bon, ce plateau, c'est la même chose, hein, il n'y a pas de divergence de ce point de vue.
Olivier Raymondon.
Oui, je pense qu'effectivement, il est intéressant toujours d'essayer de dater le pic oil, mais on voit bien que ça dépendra, effectivement, de savoir si l'envolée du prix du pétrole va subsister ou pas, va perdurer ou pas. Mais au-delà de ça, est-ce que vraiment il faut considérer que dans le futur, le pic oil doit être une bête noire? Il faut voir que le principal débouché comme du pétrole, c'est en fait les carburants pour tout ce qui est véhicules, kérosène, etc. Tout ce qui est transport. Actuellement, le gros problème, c'est que si on a besoin de pétrole, c'est qu'on n'a pas de substitut pour ces carburants. Avec un prix du pétrole qui petit à petit à penser à des moteurs qui ne seraient pas des moteurs à explosion, qui fonctionneraient comme la majorité des moteurs actuels, et on reparle à nouveau des moteurs électriques, des voitures hybrides, etc., ce qui serait réellement le seul moyen pour que dans le futur, à horizon 2020, on ait une baisse de la demande de pétrole qui soit réelle et qui ne nécessiterait pas de considérer que le peak oil serait une fatalité, serait quelque chose de négatif.
Monsieur, pour finir avec ce peak oil, c'est complètement absurde d'imaginer qu'il serait derrière nous, Jean-François Grison.
Oui, il n'est pas derrière nous.
C'est impossible.
Non.
Vous êtes tous d'accord pour dire ça?
Ça dépend comment on définit, parce qu'il y a des définitions différentes du pétrole. Ceux qui parlent du pétrole conventionnel, très conventionnel, avec des définitions très restrictives, il y en a qui ont dit qu'en fait, il était passé derrière nous. En fait, ce qui compte, c'est tous les liquides qu'on peut produire pour effectivement faire rouler les véhicules, et puis tous les usages qu'on peut avoir du pétrole. Il y a des estimations qui sont un petit peu plus pessimistes, qui sont de 2010, 2015, mais c'est vrai qu'il y a une telle marge d'erreur que entre ceux qui disent 2015 et 2020, enfin, je veux dire, on est d'accord, c'est dans l'épaisseur du trait. Hein.
Jean-Marie Chevalier, impossible d'imaginer que le pic oil soit derrière nous?
Non, il est devant nous. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que dans le phénomène de diminution de la demande aux États-Unis notamment, qui compte quand même pour le quart de la consommation mondiale, hein, il y a l'effet de éthanol. Ils ont beaucoup misé sur l'éthanol et donc il y a une partie de l'essence qui est remplacée par l'éthanol. Et ça soulève des problèmes dramatiques d'interdépendance entre les problèmes d'énergie, les problèmes d'alimentation, les problèmes de changement climatique. C'est que le bilan de la production d'éthanol aux États-Unis, il n'est pas bon pour le changement climatique. Donc on a des phénomènes d'interdépendance qui sont extrêmement intéressants à analyser, mais aussi très difficiles.
Jean-François Grison, vous souhaitez intervenir?
Bon, je pense qu'il y a un programme très ambitieux aux États-Unis. Je ne pense pas que la baisse de des minutes soit directement corrélée à la montée en puissance de l'éthanol aux États-Unis, juste sur le court terme. Hein. Donc ça, c'est... Après, le problème des interdépendances, du bilan environnemental, du bilan économique des biocarburants par rapport à l'ensemble de la problématique des matières premières alimentaires, ça, c'est un autre sujet extrêmement vaste, extrêmement complexe aussi, au moins aussi compliqué que le problème du Bitcoin. Et bon, on pourra peut-être l'aborder, mais alors là, on va élargir le débat de façon radicale.
Bon, je vous propose qu'on en passe peut-être à l'une des questions les plus importantes, en tout cas c'est une question cruciale, à savoir comment est-ce qu'on va faire pour se développer avec moins d'énergie? Comment le monde va continuer son développement en utilisant moins d'énergie?
Alors,
Jean-Luc Vingère, ensuite vous, Jean-Marie Chevalier.
Alors, si je peux me permettre, oui, il faut quand même se poser un peu la question. Bon, si on n'a plus de pétrole, puis qu'on a une autre source d'énergie à peu près équivalente de remplacement, on pense au gaz naturel, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait de problème. Donc, il faut quand même regarder un peu qu'est-ce qu'il y a comme autre source d'énergie autour. Et effectivement, le gaz, il y a des soucis qui arrivent aussi assez rapidement. Donc, on ne peut pas complètement s'abstraire de ce débat. Il y a effectivement une forte interdépendance de tout un tas de sujets. Donc, on est obligé d'avoir un petit peu une vision globale de la problématique énergétique. Et en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est finalement améliorer notre efficacité énergétique. Donc, dit plus simplement, c'est faire des économies d'énergie. Et ça, la question du développement que vous posez est très très pertinente, et ça pose un peu la question du modèle économique. Comment on fait pour trouver un modèle économique qui fonctionne avec une diminution de la quantité d'énergie? Parce qu'il ne faut pas oublier que la logistique de la mondialisation aujourd'hui, le fait qu'on ait
nos usines en Asie, c'est parce qu'on a du pétrole pas cher qui permet de faire le transport. Alors là, si vous commencez à mettre du transport onéreux, pour tout un tas de raisons d'ailleurs, là, le modèle tient plus tout à fait.
On va y revenir. Jean-Marie Chevalier.
Oui, le problème, c'est qu'on a des dynamiques régionales qui sont très différentes. La question que vous avez posée, moi je l'appelle dans mon bouquin l'équation de Johannesburg, sommet de la Terre. Et le problème, c'est plus d'énergie, notamment pour le développement économique des plus pauvres, et moins d'émissions pour sauver la planète. Et alors, on a d'un côté des gens, je pense au continent asiatique, qui représentent 60% de la population mondiale, une espèce de frénésie du développement qui fait qu'ils ont besoin absolument de plus d'énergie, et pour l'instant, en plus, ce plus d'énergie, c'est du charbon et du pétrole. Donc c'est quand même très inquiétant. Et que on voit mal comment nous, on peut imposer à ces pays de faire des économies et d'avoir des moyens de production propres, alors que leur développement économique est conditionné par ça. Donc on a une espèce d'énorme contradiction à régler au niveau planétaire, et c'est tous les enjeux de la conférence de Copenhague en 2009 pour inventer un après-Kyoto, mais sur lequel il y a vraiment des différences et des conflits d'intérêts entre les plus pauvres qui ont besoin de se développer et qui ont envie de se développer, tous les Chinois rêvent de conduire une voiture, et ressources limitées de la planète, et avec ce problème d'émissions qui est lié aux consommations d'énergie. Donc c'est le problème du siècle.
Jean-Luc Vingère, vous dites dans votre livre que la dépression du pétrole va engendrer une démondialisation partielle, qu'il va falloir limiter les déplacements, relocaliser certaines activités. Vous pensez vraiment que finalement la fin du pétrole va ouvrir une nouvelle ère, celle de la démondialisation partielle? Et c'est ça, ce changement de modèle, justement, on glisse d'un modèle de mondialisation vers un modèle de démondialisation?
Ben, disons qu'il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est à quelle vitesse arrive le pic de production. C'est quand même pas un débat anodin. Si on considère que c'est 2015, c'est demain matin.
C'est demain.
Si c'est 2020, c'est demain après-midi. Mais bon, c'est quand même très rapide. Si c'est très rapide, à ce moment-là, la moitié de l'énergie dans le monde est consommée pour les transports. Donc, on regarde le principal poste de consommation du pétrole. Si on se rend compte qu'on n'a pas de solution technique qu'on peut mettre en œuvre suffisamment rapidement, vous êtes obligé de réduire les échanges. Vous n'avez pas le choix. Donc, dans ce cas-là, on arrive à une... effectivement, ce que j'appelle une démondialisation, c'est-à-dire un peu forcée, une relocalisation par la force des choses. La difficulté, c'est comment tout ça s'organise. On sait qu'il y a des moyens de transport qui sont très sensibles au prix du pétrole, c'est le transport aérien, et en ce moment, ça va très mal pour eux. Il y a des faillites qui se cumulent aux États-Unis, ça va pas très bien. Alors, ça, c'est plutôt dans la douleur. C'est pas fait vraiment de manière ordonnée et sympathique, ça se fait de manière brutale. On se rend compte que qu'est-ce qui se passe, c'est les compagnies aériennes devraient renouveler leur flotte pour acheter des avions qui consomment moins, plus modernes, si elles veulent continuer leur activité, mais elles n'ont pas les moyens d'investir parce qu'elles sont prises à la gorge. Ce qui fait que la hausse progressive du pétrole qu'on a eue en quelques années, elle a créé quand même des tensions et elle a limité les marges de manœuvre. C'est la même chose dans le transport routier, où on a plein de petits transporteurs routiers qui font faillite parce que c'est le même mécanisme. Et pour le particulier, c'est la même chose. Si vous êtes obligé de prendre votre voiture pour aller au travail, eh bien, vous devriez en gros investir pour acheter éventuellement une voiture qui consomme moins, mais c'est à ce moment-là que vous n'avez plus de capacité financière parce que de toute façon, vous êtes pris à gorge. Donc là, on tombe sur des problèmes sociaux. Comment on fait pour aider les plus démunis? Parce que finalement, si on reste sur... un rationnement économique, c'est ce qui se passe. On augmente le prix, ceux qui peuvent suivre ont du pétrole, et ceux qui peuvent pas suivre, qui peuvent pas acheter, n'en ont pas. Et c'est comme ça qu'on règle le problème. Alors, ça va un petit peu, mais ça va pas durer longtemps.
Et il y en a qui ont des Logan, voilà.
Jean-François Grison a une Logan.
Non, j'ai pas de Logan, mais je veux dire, à la limite, c'est ça. C'est-à-dire, si on laisse l'économie faire, ceux qui ont les revenus les plus élevés, parce que on a un couplage entre hausse des revenus et hausse des prix. Donc les gens qui ont des hausses de revenus ou des niveaux de revenus qui les permettent d'assumer la hausse du prix, ils sont touchés parce que tout le monde n'aime pas dépenser de l'argent comme ça gratuitement, mais ils peuvent le faire. Et puis celui qui a eu un revenu qui n'a pas de croissance ou qui est limité ou qui est bloqué, lui, il se trouve dans une situation difficile. Et donc c'est ce qui se passe pour les petits transporteurs routiers qui n'ont pas de couverture, qui n'ont aucun moyen de compenser la hausse des prix, ils ferment. Les grosses entreprises de transport comme il y a aux Pays-Bas par exemple, elles font la même chose qu'Air France, elles se sont couvertes sur les marchés financiers. Donc elles n'ont pas subi directement la hausse des prix. Elles ont pris les mécanismes financiers de marché qui existaient comme Air France l'a fait. Mais simplement, ces mécanismes, à un moment donné, ils ont des limites. Et là, je pense que c'est vrai que dans un premier temps, on atteint une sorte de premier niveau de limite. Alors, est-ce qu'il va être durable, ce niveau? Est-ce qu'il n'est pas plus élevé dans 3 ans? Si la croissance économique reprend, je pense que si la croissance économique reprend, on repartira explorer un peu plus loin. Et puis, on aura comme ça des espèces de sauts de puce continus dans le système.
Enfin, il va falloir quand même moins utiliser les transports. La dépression du pétrole, c'est ça, vous le dites tous, c'est moins de transports. Aujourd'hui, on nous dit il faut... Vous n'êtes pas d'accord?
C'est plus compliqué que ça. C'est moins de transports avec un carburant issu du pétrole. Après, c'est toute la perception de ce que c'est. Est-ce qu'on
à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien qui peut remplacer le pétrole.
Il n'y a rien qui peut remplacer le pétrole aujourd'hui, ça c'est vrai.
Mais la dépression, c'est dans 10 ans, c'est demain.
Les véhicules hybrides existent aujourd'hui. Ils sont peu développés parce qu'ils valent relativement plus cher qu'un véhicule standard, mais ils permettent d'économiser. Si on se donne la peine de faire ce que les constructeurs automobiles investissent lourdement dans ce système, on peut économiser de 30 à 40% des consommations actuelles. D'accord. Donc c'est pas du tout négligeable. Donc, simplement, ça a un coût. Il faut savoir qui assumera ce coût.
Et il y a un délai pour les mettre en œuvre.
Il y a quand même un délai pour les mettre en œuvre. Le délai, il n'est pas de 50 ans.
Non, mais il est de l'ordre de 5 ans.
Du même ordre, 5-10 ans.
Ah oui, ça fait très court quand même.
C'est ça.
Oui, mais les technologies existent. Elles sont pour partie embryonnaires. Néanmoins, il faut leur faire confiance. Je crois que quand les prix du pétrole explosent, on trouve des fonds pour investir dans ces technologies. Et bien entendu, ça prend du temps, mais des remplacements de véhicules peuvent être très rapides. Il faut environ 12 ans pour remplacer un véhicule. Si on fait des progrès très rapidement dans les 3-4 prochaines années, il est clair que la voiture hybride, au moins aux États-Unis, peut remplacer une bonne partie du parc de véhicules aux États-Unis. Il faut voir que 70% environ de la consommation de pétrole aux États-Unis, c'est les transports. Hein, donc c'est énorme. Les voitures aux États-Unis consomment 16 litres au 100, alors que c'est seulement 8 en Europe. Donc vous voyez la possible efficacité qu'on peut recueillir d'une moindre consommation aux États-Unis, c'est énorme. Donc il ne faut pas penser que la consommation sera forcément à la hausse dans les 15 prochaines années. Voilà, ça c'est le point qui permet de...
D'accord, mais ça fait reculer quelques années, mais la demande en énergie... Pour parler, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'énergie éolienne, quelle qu'elle soit, elle augmente. Et si on trouve pas de solution pour remplacer le pétrole, ça fait que repousser de quelques années, on peut faire des économies, vous le dites.
Et elle accroît les inégalités au niveau mondial, parce qu'on s'aperçoit que les pays au niveau mondial sont extrêmement inégalitaires quant à la dotation des ressources énergétiques. Vous prenez un pays comme la Chine, on dit toujours que c'est un très gros pays consommateur, mais c'est également un très gros pays producteur, qui était il n'y a pas si longtemps totalement indépendant pour ce qui est de sa consommation de charbon. Alors sa consommation de charbon, c'est 80% du parc électrique. C'est l'un des plus gros producteurs au niveau mondial de pétrole. Il permet d'assurer la moitié de leurs besoins. Donc c'est déjà un gros pays producteur d'énergie. Il y a d'autres pays comme l'Inde qui sont beaucoup moins bien dotés, en pétrole et en charbon, et qui font face finalement à une réalité énergétique qui sera très difficile à traiter dans le futur proche.
Jean-Luc Vergère.
Alors, effectivement, on est toujours sur le mode de développement qu'on a connu, nous, en Occident et en Europe, notamment dans les années 70, les Trente Glorieuses, et c'est ce mode de développement que sont en train d'appliquer les pays d'Asie, et il faut trouver un peu autre chose. Alors, la difficulté, par exemple, en termes d'économie, la mode était beaucoup au libéralisme, on va dire, laisser faire les marchés, c'est en train de se... il y a une petite marche arrière qui se fait, or, il faut plutôt... planifier, ce qui est quasiment devenu un gros mot. Parce que il faut des infrastructures un peu lourdes, c'est-à-dire qu'on pourrait commencer, par exemple, dans le transport aérien, remplacer les voyages court-courriers par des liaisons en train. Mais ça, vous voyez, la France, pour se doter d'un réseau ferroviaire sur tout le territoire, il nous a fallu 35 ans.
Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc il faut avoir une vision à long terme. Et là, on rétrécit nos horizons à plus en plus court terme. Et justement, il y a ce manque de visibilité sur, effectivement, à combien va être le baril l'année prochaine. Enfin, je veux dire, c'est une question qui intéresse tout le monde. Et en plus, si on vous demande, ah oui, alors dans 5 ans, comme on sait qu'il y aura probablement une crise économique qui va être engendrée par la logique actuelle, il pourrait redescendre. Donc, c'est assez difficile de pouvoir trouver des solutions efficaces énergétiquement parlant dans ce contexte.
Olivier Raymondon.
Je crois que quand même, les pouvoirs publics de tous les pays développés ont maintenant quand même conscience qu'on est rentré dans l'ère d'un pétrole cher. Même s'il baisse un petit peu l'année prochaine, je pense que tout le monde a bien conscience qu'on ne trouvera jamais un baril à 30 dollars ou même à 50.
C'est quoi la limite inférieure? Je vous demande pas un chiffre. Bien
c'est le marché qui fait la limite inférieure, donc c'est très délicat à dire jusqu'où on peut descendre.
Vous nous dites là, il peut pas faire 30 dollars alors.
Néanmoins, 40, voilà, bon, moi, a priori comme ça, je descendrai pas en dessous de 60, ça me paraît totalement irréaliste dans la traduction des choses.
Vous êtes d'accord, Jean-François Grison?
Alors, d'un point de vue normalement mécanique, on dirait que le plancher, c'est le coût marginal de production de la tonne supplémentaire de pétrole brut. Aujourd'hui, cette tonne marginale à produire, que ce soit au Canada, dans les sables asphaltiques ou dans des conditions d'offshore très profonds, extrêmement complexes, compte tenu aussi des hausses de coûts, non seulement du pétrole, mais aussi de l'acier, de l'ingénierie, enfin, la croissance économique a engendré des augmentations à peu près dans tous les secteurs de l'activité économique. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces coûts, aujourd'hui, on a des estimations qui disent qu'une tonne marginale en Alaska, au Canada, ça coûte 60 à 70 dollars le baril. Donc, on peut dire que c'est une sorte de premier prix plafond. Maintenant, si on a une décroissance économique, que les prix de l'acier baissent, que les prix des ingénieries baissent, le prix, ce fameux prix plancher qui est aujourd'hui autour de 70, eh bien, il baissera de la même manière. C'est dans ce sens qu'on n'a pas de vision très claire de ce que c'est d'un prix plancher.
Quel sera le modèle énergétique de demain? Est-ce qu'il y a des pays dont on peut s'inspirer qui ont bien entamé la révolution énergétique qu'il va falloir tous réaliser, Olivier Raymondon?
Bon, il est clair qu'il y a des exemples qu'on peut trouver épars, notamment les pays nordiques, où on a ce souci effectivement de l'énergie, de l'environnement durable, peut-être plus important que qu'en France. Il y a des progrès importants qui peuvent être faits du côté du bâtiment, du côté des isolations, du chauffage. Ça touche pas simplement au pétrole, mais là directement au gaz, au charbon également. Et après, je crois que la grosse interrogation pour l'énergie, c'est réellement le moteur à explosion. C'est vraiment le problème des déplacements qui consomme énormément d'énergie.
Jean-Luc Dinger, vous êtes d'accord? Le problème, c'est le problème des déplacements.
Alors, pour revenir juste sur les modèles, les pays qu'on pourrait suivre le modèle, effectivement, la Suède est le premier pays qui a dit « Nous, on veut sortir de la dépendance au pétrole d'ici 2020 ». Alors, ça ne veut pas dire complètement supprimer le pétrole, mais baisser de 80%, c'est quand même énorme.
Pour arriver à quel niveau?
Baisser de 80% leur consommation de pétrole. Donc c'est quelque chose de très très conséquent. On n'imagine pas le faire en France. Hein, je veux dire ça. Alors eux sont dans un cas un peu particulier. Ils sont pas très nombreux. Ils sont 7-8 millions sur un territoire assez vaste avec beaucoup de forêts. Donc ils ont quand même quelques facteurs positifs. Mais ça c'est une bonne chose. Alors il y a un autre pays qui a réagi, c'est les États-Unis. Ils sont allés envahir l'Irak. Bon, ça c'est un peu moins un modèle qui n'est pas
effectivement une méthode.
Si vous voulez, si on met un petit peu, on regarde ça d'un peu loin, c'est un peu ça quand même. Et donc effectivement, ensuite, si on revient au problème que vous posiez, c'est-à-dire les économies d'énergie. Heureusement, on est dans des sociétés où on gaspille beaucoup d'énergie parce qu'on n'a pas fait attention ces dernières années, l'énergie n'était pas chère. Et donc, on a d'abord une marge de manœuvre en termes d'économie d'énergie qui vont nous permettre de gagner quelques précieuses années, 5-10, comme il faut en gros 15 ans pour remplacer le parc automobile en France. À partir du moment où les industriels ont compris qu'il fallait quand même relancer, vous voyez, Renault sort un 4x4, là, mais ils l'ont lancé, le projet a été lancé il y a 4-5 ans. Donc aujourd'hui, ils ne raisonneraient pas forcément de la même manière, mais voilà, il est lancé, et ils sont obligés de dire qu'ils sont très contents et qu'ils trouvent ça génial. Donc il y a tout cet effet retard, chaque fois, qui fait que quand vous voulez changer le parc, donc si le pic est réellement en 2015 et qu'on arrive à faire progressivement des économies, ça se passera un petit peu mieux, que, effectivement, si on se prend le phénomène en pleine figure sans avoir de préparation. Et là, la prise de conscience quand même généralisée est très marquée en 2008. Hein. Je veux dire, depuis qu'on a dépassé les $140 le baril, là, les gens ont bien compris qu'il y avait un problème. Pourtant, ça fait quelques années que le discours était sur la table, si j'ose dire. Mon livre est de 2005, c'est expliqué dedans. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce qu'on pouvait dire il y a 5 ans.
Mais est-ce qu'on peut mesurer clairement l'impact de cette crise du pétrole, à la fois sur, évidemment, le pouvoir d'achat des particuliers, on en a beaucoup parlé, mais aussi sur les entreprises françaises? Jean-François Cruzon.
Sur le particulier, bon, il y a différents indices ou calculs du style part du prix des carburants par rapport au SMIC horaire ou des choses comme ça. Ce qui fait que ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, cette part du carburant dans le SMIC horaire, il est revenu à peu près à la situation où il était en 79, c'est-à-dire pas pire, pas mieux. Simplement, c'est que pendant 20 ans, il était descendu à un niveau extrêmement bas. Donc, ce qui est un peu dur, c'est qu'il remonte au niveau où on l'avait connu auparavant. Et pendant ce temps-là, est-ce que les revenus des ménages ont augmenté dans la même logique? C'est pas sûr. On était dans une zone inflationniste il y a 25-30 ans. On est moins. Peut-être qu'on va y revenir dans une période inflationniste. D'autre part, il y a d'autres postes des budgets des ménages qui ont fortement augmenté depuis 20 ans et qui pèsent très lourdement, comme le logement. Hein. Donc, à partir de là, la situation est peut-être plus difficile pour un ménage qui a 5% de son revenu consacré au carburant qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Pourtant à proportion équivalente. Pour les industries, bon, les industriels sont moins touchés aujourd'hui par le prix du pétrole en direct qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que d'abord, en tout cas en France, il n'y a plus d'électricité produite à partir de pétrole. Donc ça, c'est un premier point tout à fait, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a 30 ans. Il y a beaucoup moins d'utilisation des produits pétroliers dans l'industrie en général. Hein. Donc ça a été remplacé quand même essentiellement par le gaz naturel. Alors indirectement, le fait que le prix du gaz soit encore corrélé au prix du pétrole avec des formules un peu compliquées fait que la montée du prix du gaz pénalise.
Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu des fermetures d'entreprises, des licenciements qui sont dus à la crise pétrolière?
Sauf dans des secteurs qui dépendent essentiellement, pour qui la part du carburant est très importante. Donc en effet, des activités comme la pêche, pour lesquels, qui en plus sont pas du tout le matelas fiscal. Ils utilisent des carburants qui ne sont pas du tout taxés. Donc eux, quand le prix est multiplié par 5, la charge elle est multipliée par 5 directement pour eux. Donc pour eux, c'est vraiment parlant. Les agriculteurs sont un peu dans la même logique. Les transporteurs routiers, pour peu qu'ils soient petits, avec peu de capacité de gestion de leur flotte, sont directement touchés. Donc ces trois professions sont des professions qui, du point de vue économique, sont plus directement touchées par la hausse des prix.
Olivier Raymondon.
Il y a eu quand même depuis 20 ans des délocalisations, il faut quand même le souligner, d'industries lourdes qui ont quitté l'Europe et qui ont été dans des pays où peut-être d'une part la main-d'œuvre était bon marché, mais également où le coût de l'énergie était moindre. Et là, pour ce qui est du coût de l'énergie, je pense directement à la Russie, on a effectivement une production d'électricité qui est très faible grâce finalement à un gaz très bon marché. Et de ce point de vue, il est clair que les délocalisations ont permis de rendre l'économie française moins dépendante du pétrole.
Messieurs, une dernière chose. Depuis quelques semaines, on assiste quand même à un léger repli du prix du baril de pétrole. Est-ce qu'on peut s'attendre à des répercussions claires à la pompe, Olivier Raymondon?
Oui, très clairement, d'autant plus que notre ministre, Madame Lagarde, a demandé à ce que la répercussion soit immédiate.
De quelques centimes.
Quelques centimes, mais...
1, 2, 3 centimes.
À $120 le baril, il n'y aura pas de miracle.
C'est à peu près, on pourrait presque dire qu'un dollar égale, pour quelques dollars pour faire un centime, donc si vous perdez 10 ou 15 dollars, vous devriez perdre un dollar de 4 à 5 centimes.
Mais la répercussion n'a pas encore eu lieu.
Ça commence.
Eh bien messieurs, ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Jean-François Cruzon, chef du département économie de l'IFP, Jean-Luc Vingère, ingénieur conseil spécialisé dans les questions d'énergie et de développement, Olivier Raymondon, docteur sciences économie et économiste à COE Rexecode. Et enfin, merci Jean-Marie Chevalier, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières à Dauphine, qui était au téléphone. Merci à tous les quatre. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur le site internet de l'émission www.franceculture.com, site sur lequel vous pourrez trouver les références des ouvrages de nos invités. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réécouter et télécharger Contre-Expertise sur votre baladeur pour une plus grande liberté encore.